Bonjour tout le monde, Josée Durocher pour Humanoïde. Cet épisode vous est généreusement présenté par H2H Stratégie. Le sujet du mois, diversité et intimidation. Humanoïde, ça commence maintenant.
Bonsoir José, bonsoir Christian,
Bonsoir.
bienvenue et bienvenue à nos fidèles auditeurs parce qu'on commence à avoir des auditeurs fidèles maintenant.
C'est vrai.
Ouais. Encore une fois, on a un invité qui va toucher, avec qui on va toucher des sujets sensibles, un gars très humain. José va nous le présenter tantôt. C'est un invité qui a un parcours assez exceptionnel. Aujourd'hui, j'arrive avec un petit proverbe chinois. Ça m'a fait beaucoup réfléchir quand j'ai lu ça. C'est pas long. Plus on prend de la hauteur, plus on voit loin. Ça me parle parce que, en lien avec le sujet de ce soir, ce que je comprends de ça, c'est que plus on s'élève au-dessus de la mêlée, plus on a une vision large de la société.
C'est vrai.
Christian puis José, est-ce que vous avez des petites phrases à nous présenter?
Mais
Vas-y,
effectivement,
Christian.
de mon côté, j'ai cherché une phrase en lien avec notre sujet de ce soir, diversité et intimidation. Puis celle-là, je suis tombé en plein dans le mille. Pour moi, m'a touché tout de suite. Ça va comme suit. Se taire, c'est laisser faire. Agir, c'est changer les choses. L'intimidation ne fait pas grandir. Le respect, oui. Un mot peut sauver ou détruire. Un geste peut sauver ou détruire. Choisis bien ton mot ou ton geste, effectivement. Je
Oui,
pense que ça dit tout. Ça dit
c'est
tout.
bon.
Absolument.
J'aime
Ouais.
beaucoup. Ouais.
Toi, José?
Ben moi, pour faire écho à vous deux, dans le fond, c'est un texte que j'avais écrit en 2019 sur Maud d'Autisme, qui est toujours de l'actualité d'ailleurs. Maud d'Autisme, c'est le texte. Et ça intitulait La portée des mots. Et la première phrase, j'y vais d'emblée en disant, les mots ont une portée. Qu'elle soit négative ou positive, cette portée, qu'on la prononce ou qu'on l'entend, peut teinter notre vie selon ce qui a été dit.
Oh,
Donc,
c'est vrai.
faut faire attention à ce qu'on dit aux autres, ce qu'on se dit à nous-mêmes aussi.
Tellement, t'as raison.
C'est important.
Oui, très beau.
Et puis, Oui, de
parlons
très,
de...
très belle pensée.
Merci. Parlant de phrases inspirantes, aujourd'hui, je me promenais sur les médias sociaux et notre invité avait écrit ceci. On a besoin de ces moments de lumière dans ces sombres temps, dans ces temps sombres. Et je vais l'inviter à être notre lumière ce soir. Je vous présente Raphaël Provost.
Bonsoir, quelle pression!
Non, t'es tellement lumineux.
Merci. Merci. Je pars de loin, mais j'essaie de plus possible d'émerger de tout ça. Puis si je peux apporter un peu de lumière chez les autres, ben tant mieux.
Ben, tu me lances la balle en me disant, je pars de loin. D'où pars-tu, Raphaël?
D'où est-ce que j'arrive? Ben, je suis très content de passer ce moment-là avec vous, Christian, José et Luc. C'est une première rencontre pour nous la plupart. Donc, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est la plus belle façon de se rencontrer, c'est autour d'un micro parce qu'on a le temps, on jase. On en vient à oublier qu'il y a ce micro-là puis que c'est une belle conversation qu'on se propose. Où est-ce que j'arrive? Je suis un petit gars natif de la Montérégie. J'ai grandi à Napierville, mais ma tante voudrait que je vous dise que je suis né à Saint-Édouard. Ne jamais oublier mes origines. C'est pas très loin. C'est un petit village qui est environ à 45 minutes de Montréal. J'ai grandi là-bas, j'y étais jusqu'à mes 18 ans. Quand je dis que je pars de loin, pourtant ça sonne pas si loin, mais pour moi à l'époque, ça l'était. C'était loin des grands centres, c'était loin de mes rêves, c'était loin de qui je suis aujourd'hui. J'étais un petit gars d'une famille modeste, avec un secondaire 5, mais qui avait dans son sac plein de rêves, plein d'ambitions, malgré tous les défis que j'ai vécu, puis défis avec un gros D majuscule, puis ben des S à la fin. Et à partir de mes 18 ans, je me suis lancé dans la vie seul avec quelques dollars dans mon compte de banque. Et j'ai commencé mon petit bout de chemin en administration. J'ai travaillé dans le milieu administratif pendant longtemps. J'ai fait tous les rôles pas possibles, de commis de bureau dans un bureau d'assurance à scanner des documents de personnes décédées pour de l'archivage, à adjoint exécutif, à assistant personnel, à coordonnateur dans une université. Et aujourd'hui, je suis DG d'un organisme.
Mais quel genre de petit gars t'étais, toi? Tu étais?
J'étais un petit gars qui faisait des spectacles à Noël. Okay. Pour vous donner une idée de à quoi je pourrais ressembler devant ma famille à Noël, j'arrêtais tout, je mettais ma radio puis je dansais sur du Céline Dion. Donc, j'étais un enfant curieux, un enfant vivant, positif, artistique, théâtral, curieux. Toujours le genre de gars qui lève la main pour faire un exposé oral, même quand c'est pas proposé. Mais j'aimais le monde, j'aimais l'humain, j'aimais être entouré de monde, j'étais curieux. J'étais le premier levé, le dernier couché dans un party, j'écoutais le monde. Puis ça, ben encore, je suis comme ça aujourd'hui.
OK. Toi, vas-y. Excuse,
quand tu parles de défis avec un D majuscule, as-tu des certains exemples que tu pourrais nous donner, nous partager?
Avec plaisir. J'ai déjà dit à d'autres endroits, mais moi, l'intimidation, c'était un mot, une réalité qui me suivait presque tous les jours, du primaire jusqu'au secondaire. Il n'y a pas une journée où je me faisais pas insulter, où je sentais pas une pression, où je me sentais pas mise à l'écart, parce que je sortais du lot. Moi, j'ai fait mon coming out à l'âge de 17 ans, devant toute ma classe, en secondaire 5. Okay. Mais jusqu'à ce moment précieux de ma vie, j'en avais presque jamais parlé et c'est les gens qui me collaient des étiquettes qui n'étaient pas forcément les bonnes ou encore moins les bons mots pour me définir. Donc, primaire, secondaire, là, tous les insultes homophobes que vous pouvez connaître, moi, je les recevais en abondance comme un troc à chaque fois. Donc ça, ça a été, disons, un de mes défis de vie. C'est tough être intimidé. C'est tough quotidiennement avoir peur. C'est tough aller à l'école puis se demander à quoi va ressembler sa journée. Quand pourtant j'aimais l'école, j'étais quelqu'un qui était bon, mais quand tu as cette boule au ventre-là quotidiennement, pas savoir si le week-end qu'on allait au restaurant, j'allais être observé, si on allait dans un party. Donc, tout ça, ça m'a suivi longtemps. Moi, ma mère m'a aussi quitté pour refaire sa vie. J'avais 6 ans, n'est jamais revenue. Et à l'âge de 18 ans, j'ai vécu un épisode assez difficile où je me suis retrouvé en solo dans la vie. Je l'ai dit tantôt en entrée de jeu, avec quelques dollars dans mon compte de banque. Et ouais. C'est la pure vérité. Et absolument rien à part des ambitions, des rêves et des gens qui m'ont aidé.
Comment a été ta première nuit avec quelques dollars en banque puis tout seul dans la vie?
Et mon Dieu, je m'en souviens. C'est drôle. C'est drôle que tu me poses cette question-là. Probablement la plus difficile de ma vie. Parce que c'est tough se ramasser seul. Puis j'étais chanceux, j'avais un toit sur la tête. Au moins, j'avais un toit sur la tête, mais j'étais seul sous ce toit-là. Et se sentir seul, je ne dis pas pour vous, je ne dis pas pour les gens qui nous écoutent, mais ce sentiment-là est terrifiant et troublant, puis brouille notre façon de voir l'avenir. Donc, ça a été un moment assez difficile. Mais il y avait un côté chez moi d'optimiste qui a pris le dessus à un moment donné.
OK. Donc, tu es très résilient.
Ah, mon Dieu, oui. Oui. Des fois, je le suis pour certaines situations plus que d'autres. Pour des petites choses niaiseuses, j'ai l'impression que je le suis pas tout le temps. Puis pourtant, la vie m'a testé à des grandes choses où j'ai eu à l'être, où je le suis encore. Donc, non, oui, je suis quelqu'un de résilient.
Puis ton coming out à ta famille, si je peux me permettre, ça s'est fait à 17 ans aussi?
Oui, mais ils ont été un peu les derniers à l'apprendre de façon officielle parce que j'ai décidé de faire mon coming out de façon très spontanée dans un exposé oral. Je vous parlais tantôt que j'aimais ça, donc clairement, j'aime beaucoup les exposés oraux. C'est une prof de secondaire 5 qui nous avait proposé la lecture d'un livre de notre choix comme examen en français, et on devait en faire un exposé oral. Et cette prof a eu l'audace, le courage, et je ne sais trop quoi, de mettre entre les mains le livre de Michel Tremblay, La nuit des princes charmants. Et ça raconte l'histoire d'un un peu à l'image de Michel, un homosexuel qui se découvre, tombe en amour, tout cet univers-là. Et c'est la première fois de ma vie, moi, que j'avais enfin des mots pour bien me définir. Je le disais tantôt, j'étais intimidé, toujours les pires insultes au monde. Là, je lisais une histoire qui, OK, c'est possible, l'amour, c'était beau d'une certaine façon. Est arrivé mon exposé oral où j'ai fait la lecture de mon livre. Et à la fin, j'ai eu une bouffée de chaleur. Et je n'avais pas prévu ça, mais j'ai dit à toute ma classe, hey, je suis comme le personnage. Je suis gay, moi aussi. Puis je ne veux plus jamais qu'on m'écœure avec ça.
Oh, wow!
Et ça, c'est l'époque où les téléphones cellulaires commençaient à peine. Donc, ce n'était pas le réflexe d'aller sur le cellulaire mais pour le partager. Mais vous savez comment une école fonctionne. Ça n'a pas pris 10 minutes que tout le monde le savait. Mais c'est là que j'ai commencé à faire, mais là, tout le monde, hey, on est des villages. Là. On était 5 villages à aller dans la même école secondaire. Donc là, je me suis dit, oh non, mais mes parents vont le savoir. Et je me rappelle que j'ai fait tous les chemins du village avant de me rendre à la maison après l'école. Ben, je redoutais ce moment-là où j'aurais en parlé à ma famille. J'arrivais, mon père était là. Mon père, Stéphane, l'archétype, gars de région, gars de construction, tatoué du front jusqu'au bout des mains. On parle pas d'émotion. Quand on voit des gosses frenchés à la télé, on ferme la télé. M'a accueilli en pleurant. Parce qu'il l'avait su, ça s'était su, ça s'était rendu jusqu'à lui. Il m'a dit, j'espère juste que ce ne sera pas trop tough. Je veux pas que ce soit tough pour toi.
Oh! C'est touchant. Mon Dieu!
Oui. Et ça venait avec beaucoup de maladresse, mais il y avait un fond de bienveillance, il y avait un fond que beaucoup de parents ont puis qui souvent se reconnaissent là-dedans. Le meilleur pour leur enfant et savaient que ça allait être le début d'une vie pas facile. C'est vrai, c'est pas facile de faire partie d'une certaine diversité, mais il y avait un masque qui était tombé quelques heures avant, puis cette bouffée d'air-là que j'avais enfin, ça pour moi, c'était précieux pour la suite des choses.
Est-ce que après cette sortie-là, à l'école, il y a eu des changements?
Oui, puis assez drastique. C'était à la mi-secondaire 5. Moi, j'avais mis bien des petits rêves de côté, dont animer mon bal de finissant. Ben, je me disais, ce sera jamais possible en étant la tête de Turc comme ça. Et finalement, j'ai animé le bal de finissant avec le gars le plus populaire de notre cohorte. Et tout n'a pas arrêté du jour au lendemain. Là. C'était pas une baguette magique qui fait que les gens arrêtaient d'être forcément méchants ou ignorants. Mais il y a eu une énergie qui a changé parce que je m'appropriais ma propre réalité. Puis ça a pris le contrôle sur le reste. Les gens, quand tu le dis que t'es gay, tu sais, t'as beau me répéter que je suis gay, de tous les bords, de tous les façons. Voilà. Fait que oui, ça a changé quelque chose. Ça a surtout changé quelque chose chez moi.
Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, t'es encore victime d'intimidation parfois?
Ah ben oui. Ben oui. Ben oui, tout le temps. Que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit dans la rue parfois, ça m'arrive 3-4 fois par année de me faire insulter. C'est arrivé il y a quelques mois dans les rues dans le Vieux-Québec où je marchais pour aller prendre un café puis un passant qui m'a traité de fif. C'est arrivé à Montréal. C'est arrivé il y a quelques semaines, des jeunes en voiture qui baissent la fenêtre juste en passant à côté de moi en me traitant encore de fif. Donc, ça arrive. Ça arrive en personne. Ça arrive sur les réseaux sociaux. Et ça arrive aussi de façon insinueuse, les regards. José, tu sais, j'aime la mode, j'aime m'amuser, briser les codes. Et un gars en talons hauts, là, ça vient provoquer quelque chose chez le monde que je m'explique pas encore. Parce que ça m'arrive que les gens me filment, que les gens me pointent, que les gens ont des faces comme si je leur avais craché dessus. C'est assez troublant d'être soi-même avec une expression de genre qui s'amuse. Donc oui, ça arrive encore.
Pourtant, les filles sont habillées de façon masculine, puis c'est très beau, puis personne ne dit rien.
Oui, mais ça, les gens, pas parce qu'ils disent rien qu'ils pensent rien. Hein. Non, puis, c'est vrai. Les gens qui ont des faces pas si hypocrites que ça. Donc, ce que tu vois dans leur... Tu lis dans leur visage.
Ils ne le disent pas, mais ça paraît sur leur visage. Tu as raison.
Exact. Ouais.
Tu as dit quelque chose qui m'interpelle tantôt. Tu as dit son soit ignorant ou méchant. Méchant, on sait très bien c'est qu'est-ce que ça représente, mais le mot ignorant, tu peux-tu élaborer un petit peu plus là-dessus?
Oui, ben l'ignorance, c'est comme pour moi un carrefour qui peut mener à bien des affaires, qui peut mener à justement la méchanceté, qui peut mener à l'ouverture, qui peut venir à la bienveillance, qui peut nous laisser dans cette ignorance-là. On ne connaît pas tout, c'est impossible de tout connaître. On est formaté par des préjugés, on est formaté par des biais. Puis pour moi, l'ignorance, c'est un peu tout ça. C'est de pas forcément comprendre l'autre, pas du tout, ben parfois être dépassé par la réalité de l'autre, de ce qui m'est présenté, de quelque chose de complètement différent. Mais nos réactions associées à notre ignorance, c'est là que ça peut devenir soit problématique ou ça peut être rempli d'optimisme. Je suis une personne ignorante sur plein de choses, mais si je suis face à quelque chose de différent de moi, est-ce que mon réflexe, c'est de l'invalider ou d'être méchant ou c'est de poser des questions avec peut-être maladresse, mais avec une sincère ouverture, puis une sincère volonté de peut-être mieux comprendre l'humain qui est différent et c'est valide d'être différent. Moi, les gens qui disent qu'ils voient pas de couleur, puis le monde entier, tout le monde est pareil, là, je trouve ça à la limite dangereux d'être comme ça, parce que
Oui.
on est tous uniques, mais on fait partie de groupe, puis il faut aussi reconnaître la diversité sous tous ses angles. Et moi, l'ignorance, ben c'est un peu cette salle d'attente-là, qu'on est peut-être un peu tous, puis c'est nous qui décident d'aller d'une porte à une autre, puis on peut en sortir puis aller vers une autre, mais c'est pas forcément pas correct d'être dans l'ignorance.
C'est ça. Moi, je dis souvent qu'on se ressemble dans nos différences, mais on n'est pas pareil. On a
Exact.
chacun notre couleur unique.
Ouais. En effet.
Mais quelqu'un qui est méchant par ignorance, versus quelqu'un qui est méchant pour être méchant, il y a quand même une différence importante, je pense.
Oui, mais c'est parce que si ça fait sens, je te le répète, que ce que tu dis ou tu utilises comme terme ou façon de faire, ça a un impact négatif sur une autre personne. C'est plus juste l'ignorance que le dos large, puis que ah, ben, c'est parce que je suis ignorant. T'sais, si c'est la première fois, je sais pas, par exemple, une personne qui utilise des pronoms différents que les tiens, pronom iel, puis tu te
Oui.
trompes. Tu sais pas, tu n'as jamais entendu parler de ça de ta vie, puis ça se peut, là. On est tous dans des chambres d'écho. Moi, dans ma tête à moi, on sait tous ce que veut dire l'acronyme LGBTQ+. Pour plein d'autres personnes, non. Mais si je te dis l'acronyme LGBTQ+, puis tu me dis, hey, c'est quoi cette affaire-là, le code Wi-Fi, là, puis là, c'est quoi, on peut-tu être un chat, puis là, ton ignorance est méchante, là. Mais si tu dis, hey, pour vrai, pronom
Comprends.
iel, je comprends pas, j'ai jamais entendu parler de ça, peux-tu m'expliquer, ça se peut que je me trompe? C'est ça aussi l'ignorance, mais tu sais, ça peut être super maladroit, mais si la personne te le dit, puis tu répètes encore, puis tu te trompes encore, puis tu te retrompes, à un moment donné, c'est ça. Donc, ça nous rend pas forcément méchants être ignorant. Mais si on te le répète, puis que dans la société dans laquelle on vit, tu as accès à beaucoup d'informations, puis tu ne fais pas cet exercice-là, ben, à un moment donné, tu es méchant.
C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. C'est comme moi, par exemple, les pronoms. J'ai pas le réflexe tout le temps de demander quel pronom utilises-tu. Mais si on me dit, hey, José, moi, c'est Yel, ben, je vais essayer de m'en souvenir. Puis je le dis tout de suite. Si je m'en souviens pas, c'est pas méchant, là. Tu sais, c'est moi, là, qui suis pas habituée. Tu sais, il y a une belle ouverture dans ce sens-là quand on dit la vérité aussi.
100%. 100%. D'être le plus authentique possible, le dire d'où est-ce qu'on part, ça humanise un peu plus, justement, cette ignorance-là.
Mais oui.
Puis, tu peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours à partir du moment où tu étais. Christian, t'avais pas dit.
C'était exactement la même question. J'allais dire ton expérience puis ton bagage t'ont amené à travailler dans ça, de travailler au niveau de l'adversité pour un organisme.
C'est une
Que c'est
crise
ça que tu
existentielle qui est arrivée quelques temps avant la pandémie.
OK.
Moi, la pandémie a eu du beau pour moi. Mais quelques mois avant la pandémie, puis je le dis j'étais très ignorant de mes propres communautés auxquelles je suis associé, relié. Moi, tu sais, j'ai fait mon coming out, je vous l'ai dit, à l'âge de 17 ans. Mais jusqu'à mes 26, 27 ans, j'avais beaucoup d'homophobie intériorisée. Et je me tenais loin, moi, de tout ce qui est fierté, village, avoir même des amis qui me ressemblent. Ah, moi, je suis au-dessus de ça.
Ok.
Donc, c'était ça mon homophobie intériorisée. J'ai passé ma vie, moi, à me faire dire que c'est pas correct d'être comme tu es. Je n'étais pas encore rendu là dans mon propre parcours de vie de autant m'entourer et me laisser imprégner et m'ouvrir à la diversité, à son sens le plus large au sein des communautés LGBTQ+. Et j'ai fait un voyage à San Francisco en 2019, quelques temps avant la pandémie. Et pour certaines personnes, on le sait, c'est un endroit mythique pour les communautés LGBTQ+. Beaucoup de nos droits se sont bâtis, dessinés là-bas. Les gens sont sortis dans la rue. C'est encore une ville très progressiste pour la justice sociale au sens large. Et quand j'étais là-bas, je rencontrais plein de gens qui se définissaient comme queer, qui se présentaient avec leur réalité, des pronoms différents. Et c'était associé aussi à leur parcours professionnel. Puis j'étais comme, mais voyons, tout ce beau monde-là, de si belles carrières, puis sont autant émancipés. Et je suis revenu très envieux de mon voyage. Très envieux de ces gens-là. Envieux de cette communauté queer, de ces communautés LGBTQ+. Et quand je suis revenu, je travaillais à HEC à ce moment-là depuis 5 ans. J'avais une super belle job, une maison avec mon ex, une belle petite vie bien dernière à Chambly. Crise existentielle, je suis clairement pas connecté avec mon moi. Donc, j'ai quitté ma job sans plan B, sans plan C quand la pandémie est arrivée. On se rappelle qu'il y avait une PCU. Fait que j'en ai profité avec cette pure volonté de mieux me connaître. Et un cadeau de la vie a fait que je suis devenu bénévole au Gris Montréal, un organisme qui fait la sensibilisation dans les écoles, où tu vas te raconter comme personne LGBTQ+, comme homme gay, comme femme lesbienne, comme personne trans, comme personne non-binaire, comme personne pansexuelle. Tu te racontes aux jeunes pour humaniser justement les réalités LGBTQ+. Et ça a été pour moi là, un apprentissage. Puis pouf, là, ai-je une déconstruction de ce que je pensais savoir. Découvrir justement beaucoup plus loin que le G dans l'acronyme. Comprendre les nuances chez l'autre. Ça a été vraiment révélateur. Et ça a été aussi révélateur de découvrir le milieu communautaire. Moi, je pensais que c'était toute une gang de bénévoles qui travaillaient dans des sous-sols d'église. Très général, je voyais que des gens avaient des rôles. Je commençais à découvrir ça. Et un jour, on m'a envoyé à Saint-Hyacinthe offrir une sensibilisation. Et Justine, l'intervenante qui m'accompagnait, travaillait pour l'organisme JAG, un organisme LGBTQ+, en Montérégie à Saint-Hyacinthe.
Oui, t'as travaillé pour JAG.
J'étais DG 2 ans là-bas. Ils ont affiché le rôle de DG un jour et j'ai vu le poste et j'ai fait « voilà ma réponse. Communication humaine, tout ce que j'aime le plus au monde. » J'ai postulé 1 entrevue, 2 entrevues, 3 entrevues. Et le jour de mon anniversaire, j'ai reçu un appel du conseil d'administration qui m'annonçait que j'avais le rôle. Même si j'avais jamais été DG, mais en décortiquant le rôle, je me disais, je suis capable de tout faire ça. Au pire, je vais l'apprendre. C'était l'histoire de ma vie. Et on m'a fait confiance. Et j'ai été DG pendant 2 ans là-bas, un organisme qui accompagne directement les jeunes et moins jeunes LGBTQ+, les familles, les écoles, les milieux, vraiment un organisme de proximité. Il y a des gens qui m'observaient voir ce que j'ai fait avec l'organisme pendant tout ce temps-là. J'ai reçu un coup de fil un jour. Ensemble pour le respect de la diversité, je cherche une nouvelle direction générale. La personne me voyait dans sa soupe pour ce rôle-là. J'ai accepté. Moi, je crois beaucoup au signe de la vie. J'ai vu 2 entrevues, 3 entrevues. Et quand on m'a annoncé que j'allais avoir le poste, je savais que ma vie allait changer pour toujours. Et depuis 3 ans, je suis DG d'un organisme pan-canadien qui aborde toutes les formes de discrimination dans les écoles primaires, secondaires, de tous les coins du pays. Et encore là, j'apprends plus que jamais sur les réalités des personnes immigrantes, racisées, nées ici, personnes handicapées, petites, grosses, les femmes, les personnes autochtones. On parle de grossophobie, on parle de plein de choses, on parle de capacitisme. Donc, je suis dans un rôle qui m'apprend quotidiennement et je suis connecté aussi à la mission pour avoir vécu tout ça. Et aujourd'hui, ben, je suis fier d'être d'une belle équipe de 16 employés. Et je suis chroniqueur également à gauche, à droite.
Oui, à gauche, à droite. C'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi concrètement que tu fais chaque jour dans ce rôle-là?
Bien, la comparaison va être simple. Je suis comme un PDG d'une PME. Mais c'est juste qu'on a un aspect social à notre mission. Et je ne suis pas supposé faire de cash au bout de mon année. Mais je gère une équipe d'employés, donc des ressources humaines, des finances, du développement des affaires, du marketing, des communications. Je crée des plans stratégiques. Je suis dans de la relation avec plein de partenaires pour attacher du financement autant privé qu'au public, campagne de financement, événementiel. Donc, comme un PDG d'entreprise, je suis soutenu par une équipe extraordinaire de coordonnatrices, de personnes responsables des communications, des relations publiques, des animateuristes, des gens qui vont dans les écoles. Donc, c'est pas moi qui va dans les écoles, mais je suis à la tête de cet organisme-là et ça m'emmène à être porte-parole du message, donc à la télé, à la radio, sur différentes plateformes, où je vais défendre justement toute la question des droits humains. Pour moi, c'est surtout ça, c'est l'humain avec un grand H. Et que chaque personne a droit à la dignité, au respect et à l'équité ici chez nous. Et c'est ça mon rôle de quotidiennement me battre pour ça.
Ça me fait penser, Raphaël, je t'ai déjà vu dans une entrevue, je t'ai entendu dire on a oublié le H dans LGBTQ+.
Mm-hmm.
Pour humain.
Oui, bien
frapper.
Je m'amuse avec ça parce que il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de dire on rajoute des lettres à l'acronyme. Moi, à chaque fois, je dis, mais tant qu'on a rajouté, je vais en rajouter une, puis c'est au début, c'est un H en majuscule pour humain. Puis après, c'est pas forcément important de comprendre toutes les nuances et la complexité de chaque réalité qui suit, mais quand on rajoute l'humain au début, ça change notre façon de voir les personnes trans, les personnes pansexuelles, les personnes aromantiques, les personnes bispirituelles. Puis pour moi, c'est une question, j'aime jouer avec les mots, j'aime jouer avec les jeux oratoires. Puis parfois, c'est juste une façon de, je veux pas invalider ou invisibiliser les réalités qui suivent.
Non.
Si je peux faire réaliser à nous deux personnes qu'on est des humains comme tout le monde, ça sera réussi.
En tout cas, moi, ça m'avait frappé, ça, cette phrase-là que tu avais prononcée, je pense, au TVA Nouvelles.
Ouais.
Je me suis fou, là.
Je pense que j'avais rajouté le respect esti, en plus.
C'est l'esti qui est important.
Oui, c'est l'émotion qui est le respect.
Dis-moi, je suis un peu curieux, parce que ça brasse quand même beaucoup aux États-Unis actuellement, au niveau de toutes les communautés, là, tout ce qui n'est pas homme-femme, point à la ligne, tout le reste, c'est en train de je pense qu'il y a beaucoup de services qui sont abolis, en tout cas, les mentalités semblent vouloir changer. Ça a-t-il une influence avec tout ce qui se passe ici au Canada?
Ben, c'est direct. On est plugué sur le 220 avec tout ça. Là. Ça se passe ici autant que là-bas. C'est juste qu'on n'a pas le même système, mais il faut se méfier de ce qui se passe chez nos voisins parce qu'il y a bien des raisons. Mais l'une d'entre elles, c'est étant hyper connecté avec nos médias sociaux, on n'a parfois pas l'impression que qu'est-ce qu'on voit, c'est pas chez nous. Fait que pour beaucoup de monde, ce qui se dit là-bas, ce qui se passe là-bas, ce qui recule là-bas, pour beaucoup, c'est comme si c'était également ici. On n'a plus cette même notion-là de « ah, nous versus les autres ». On est tous hyper connectés maintenant. Donc, quand tu as un président comme lui, qui de façon même pas cachée, déteste ouvertement les réalités LGBTQ+, utilise le mot « woke » comme une insulte et pour nous rendre dangereux, puis que c'est de nous qu'on devrait se méfier. Quand le mot « woke » n'est pas une insulte, ça veut dire qu'on est à être éveillé sur les injustices. Je veux dire, si t'es contre ça, t'as un méchant problème. Ben oui, c'est dangereux. C'est dangereux parce que il y a pas si longtemps, je suis pas certain que les gens auraient pensé que les femmes auraient perdu leur droit à l'avortement. Et pourtant, notre constitution à nous, elle est faite différemment. Elle est différente. C'est pas un droit ici, c'est dans la constitution au Canada, mais quand même. L'armée américaine, ont aboli les postes des personnes trans. C'est des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi, des gens qui sont fiers d'être dans l'armée. On le sait, quand tu t'enrôles dans l'armée, c'est parce que tu aimes ton pays et tu veux le défendre. Plombe-tu que ton pays. Exact. Oui. C'est arrivé au Canada jusqu'en 95, la purge LGBTQ+, près de 10 000 personnes ont perdu leur emploi dans la fonction publique. Donc, c'est tout récent, puis pourtant, on est tous en train de revivre ça. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur même de me dire si je vais là-bas, comment je suis accueilli, puis de penser qu'il y a des gens comme moi, là-bas, qui en ce moment perdent leur emploi, ont peur, puis ont un risque pour leur sécurité physique et émotionnelle. Ça se passe à 1 heure d'ici.
Mm-hmm.
C'est ça, c'est pas loin?
Non. Et les jeunes voient ça.
Puis tu sens que ça se transpose ici au Québec. On voit ça de plus en plus, cette perte d'ouverture-là.
Ah
Ouais,
oui.
cette structure-là, disons-le.
Puis tu sais, je suis dans beaucoup de réflexions en ce moment à me dire, y a-tu plus de monde qui nous aime pas ou c'est le même monde qui se permet de le dire parce qu'on leur a donné le droit à nouveau de le faire?
Poser la question.
Ben c'est ça, fait, parce qu'on parle beaucoup de la montée de l'intolérance dans, par exemple, dans les écoles auprès des communautés. Puis en parallèle, on n'a jamais vu autant d'initiatives belles et grandes et inspirantes chez les jeunes où ils mettent en place des comités LGBTQ+ ou ils créent des plateformes. Donc, il y a comme une double vitesse, mais il y a un méchant groupe qui se cache plus pour haïr, point, haïr l'autre sous toutes ses formes. Puis ils ne sont pas ni censurés ni condamnés. Donc, c'est sûr que ça envoie comme message, ben, j'ai pas de répercussions, j'ai pas d'impact, ben, je le fais. On le voit sur TikTok, à chaque fois que je mets une vidéo, les commentaires haineux que je reçois, rien n'est bloqué. Parfois, moi, j'essaie de mettre des commentaires positifs pour répondre. Eux sont bloqués, mes commentaires positifs. Donc, on vit dans un drôle de monde et
Ouais.
on ressent ici ça dans les cours d'école, on le ressent sur les réseaux sociaux et c'est inspiré d'un modèle du Sud. Je ne dis pas que nous, on était parfaits versus les Américains, mais ce n'était
Non.
pas dans ma tête à moi, ce n'était pas dans notre image, ce n'était pas dans nos mœurs d'être aussi ouvertement agressif envers une communauté at large. Puis ça me fait peur qu'on tolère ça ici parce que ça passe, puis on dit que personne ne sait quoi faire de ça. Tout le monde est comme, faut faire quelque chose, mais on fait rien.
Moi, je remarque ça aussi parce que je suis une personne autiste. Il y a beaucoup de haine face aux gens qui ont des nouveaux diagnostics. T'sais, on dit, ah, t'es allé chercher une étiquette ou on est intimidé beaucoup sur les réseaux sociaux souvent. Puis, je me demandais, Raphaël, qu'est-ce qu'on fait en cas d'intimidation? Quand on est jeune d'abord, puis après, on parlera des autres.
Ben, je pense que ça s'applique autant pour les jeunes que pour les plus âgés, hein.
OK.
Il y a pas de recette miracle, hein.
OK.
Mais il y a quelques ingrédients qui sont assez communs à chaque fois. Le premier, ben, c'est d'en parler à une personne autour de nous. De pas s'isoler avec ce qu'on vit. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans notre entourage, parce que ça arrive aussi dans notre entourage. D'en parler à une personne de confiance. Déjà, cette étape-là, et cette personne de confiance peut être un organisme communautaire, peut être une ligne d'écoute de gens bienveillants, à l'écoute, remplis d'humanité, qui vont faire de leur mieux pour t'accompagner vers peut-être une autre ressource. Mais pour moi, ce partage-là est une clé importante. Après, il faut rentrer dans la porte, puis c'est souvent pas facile parce que on veut pas être intimidé. Puis faire
Non.
face à ça, ça vient avec plein de choses. On le sait, on est dans des systèmes en plus qui nous font douter à plein d'étapes, souvent quand on est une personne intimidée. Donc, c'est souvent plus facile, puis je le mets en guillemets, là, de pas en parler, quand pourtant, c'est souvent ce qui est le plus libérateur, mais c'est pas facile. Je pense que je m'en tiendrai à ça, d'en parler, puis de rappeler qu'il y a des ressources extraordinaires au Québec qui peuvent nous accompagner sans nous juger là-dedans. Parce que moi, des histoires d'horreur, d'intimidation, j'en reçois tous les jours sur tous mes médias sociaux, de gens au
Oui.
travail, des gens des parents, des gens sur les réseaux sociaux. Et chaque fois, je leur dis, déjà, merci de me parler à moi. Mais il y a sûrement une autre personne aussi dans votre entourage auquel vous pouvez en parler, puis se créer une bulle autour de nous comme ça. Parce que
J'ai déjà dit la parole libère.
la parole libère. Et
C'est
on
ça.
ne pourra jamais probablement enrayer à 100% l'intimidation. Mais on peut y faire face et lutter, puis jamais s'arrêter. Puis je pense que c'est peut-être ce qui nous est arrivé dans les dernières années, on s'est peut-être un peu assis sur nos lauriers en pensant que c'était réglé, puis ça a pris le
Ça.
dessus. Fait que le tenir ce mur-là, de dialoguer, de bienveillance entre nous, puis on va peut-être le contenir encore plus longtemps.
Un mur positif.
Oui,
Est-ce
parlant de positif, tu me sembles être un gars extrêmement positif. Tu n'as pas l'air avoir à être un gars qui va s'apitoyer sur son sort. Est-ce que ça t'a aidé dans ta jeunesse à passer au travers le fait d'être toujours positif et de voir le bon côté des choses?
Oui.
Est-ce que ça t'aide toujours?
Ah ben oui.
Aujourd'hui.
Ça m'aide tout le temps. Puis je suis pas, j'essaie de pas tomber dans le positif, positivisme toxique, là, style coach, puis que dans
Ouais.
chaque situation, il faut aussi se connecter à nos émotions quand il nous arrive quelque chose, d'être en colère, d'être triste. Je l'ai été, je le suis, je vais encore l'être. Je remercie mon psychologue de m'aider à me connecter à cet univers-là. Mais je pense que jeune, ce qui a été ce qui m'a sauvé, pour de vrai, c'est m'accrocher à ce positivisme-là, puis de peut-être être dans le déni des autres choses. Parce que ça aurait été peut-être beaucoup trop tough. Donc,
Ça
je me suis
moyen.
accroché à ça. En effet. Je me suis accroché à mes rêves. Je me suis accroché au petit bonheur que j'ai réussi à trouver quelque part. Puis je me disais, je peux pas croire que c'est le même partout tout le temps. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Et je pense que c'est ce qui m'a mené à mes 32 ans aujourd'hui. Mais je veux pas avoir l'air du gars qui est juste positif. C'est pas vrai. Je me réveille souvent choqué de ce qui se passe ici, ailleurs, dépassé. Il m'arrive plein de choses. Quand même, tu sais, tantôt, je vous racontais quand on baisse une fenêtre puis qu'on m'insulte, ça me ramène à mes années de primaire puis de jeunesse à chaque fois. J'en ai la tête qui chauffe, je suis pas bien, j'ai mal au cœur, je shake. C'est après que j'essaie d'en faire quelque chose de positif, mais une couple de minutes où je me sens pas bien, puis c'est pas vrai que c'est comme, hey, c'est pas grave, ça va bien aller, puis c'est eux, non, non, je suis comme tout le monde, mais j'essaie d'en faire quelque chose après de positif. Je donne pas le droit à ces gens-là d'avoir le dernier mot sur ma vie à moi.
Tu leur donnes pas ton pouvoir, finalement.
Non. Ils peuvent essayer de l'arracher, mais c'est à moi.
Mais c'est à toi. Ça reste à toi.
On parlait d'ignorance tantôt. L'intimidation, ça prend quelle forme? Ça commence où? C'est large,
C'est très
mais.
large. Pour beaucoup de gens, ils se considèrent peut-être pas intimidateurs, mais ils le sont probablement. À force de répéter certains mots, comportements problématiques, intolérables, qu'ils l'étaient à une autre époque, mais qu'ils sont encore moins aujourd'hui parce qu'on en parle. L'exclusion sociale peut faire partie aussi de ça. On a parfois des comportements où on exclut des gens parce qu'on est rempli de biais, de préjugés, puis ça c'est une forme d'intimidation. Des petits commentaires, quand on écoute un gala à la télé un dimanche soir, puis qu'on passe son temps l'apparence d'une telle, d'un autre, sa robe, elle, puis qu'après nos enfants entendent ça, puis qu'on commence à être nos enfants intimident les autres sur leur apparence.
Ben oui, c'est
Nous, on se considérait juste comme des gérants d'estrade dans notre salon avec notre verre de vin ou notre mocktail. Ben, ça peut prendre toutes ces formes-là,
vrai.
comme ça peut être de la haine dirigée, ça peut être d'invalider toute une réalité parce que toi, tu la comprends pas. Parce que toi, pas parce que tu comprends pas quelque chose que ça n'existe pas ou que ça a pas moins de valeur que toi. Donc, ça prend différentes formes. Mais où est-ce que on l'a tous été probablement dans notre vie sans le vouloir. Mais c'est quand on le répète puis qu'en plus on se le fait dire que c'est pas correct, c'est là que ça devient problématique. Puis je pense qu'aujourd'hui, cette conversation, on l'a pas mal, là, en mode faire attention aux mots qu'on choisit, aux comportements qu'on a. Si tu vas pas bien, c'est que ça n'a pas d'impact chez les autres. T'sais, on en a de moins en moins d'excuses là pour être des intimidateurs à répétition.
Il y a différentes formes de violence, je pense aussi, hein. Il y a la violence verbale, physique, la violence psychologique.
Économique, comme gestionnaire encore aujourd'hui, moi, j'essaie, là, puis je touche du bois d'être la meilleure version de moi-même comme patron, comme gestionnaire, mais je suis zéro parfait. Mais quand j'entends de mes amis, collègues qui ont des patrons qui leur crient après, qui les empêchent de faire certaines choses, hey, c'est arrivé, puis ça a l'air anecdotique, puis d'une autre époque, mais c'est arrivé il y a une couple de mois. J'ai un ami à moi qui travaille dans une très grande entreprise. Durant une rencontre où il souhaitait aller à la salle de bain, la grande patronne a refusé qu'il se lève pour aller à la salle de bain parce qu'elle trouvait ça insultant.
Oui.
C'était à ce moment-là. Quand il avait besoin d'aller à la salle de bain, devant tout le monde, elle lui a empêché d'aller à la salle de bain. On est en 2025. Tu te dis, mais voyons qu'il se passe encore des affaires de même. Ben, c'était encore toléré parce que là, on a la peur de perdre son poste, rapport d'autorité, rapport hiérarchique. quand c'est à cette personne-là de travailler sur elle, là, de gérer, de faire ça. Fait que malgré la conversation ambiante, tous mes amis de femmes subissent encore du sexisme, de la misogynie, des comportements problématiques.
Il y a des hommes qui la subissent, mais...
Ça arrive au travail encore aujourd'hui, en 2025. Malgré le fait qu'on n'en parle plus jamais, tes mains gardées dans tes poches, tes commentaires gardés pour toi. Malgré ça, ces femmes-là, encore aujourd'hui, dans plein de types d'entreprises, c'est pas plus un garage qu'une grande entreprise où ils sont protégés par plein de ressources humaines, mais ça se passe, malgré la conversation ambiante qu'on a autour de ça.
Oui.
On parlait de médias sociaux tantôt. Est-ce que c'est sûr que ça a amené une montée flagrante de l'intimidation, mais est-ce que ça se passe beaucoup en cyber-intimidation ou c'est encore beaucoup sur le terrain en personne? C'est tout difficile.
Partout, puis je veux surtout pas diaboliser les médias sociaux parce qu'il y a du beau avec les médias sociaux. Okay. Je pense juste qu'on nous a mis ça tôt dans les mains puis on n'a pas eu d'outils ni de guide pour voir comment bien les utiliser. Parce que c'est des réseaux extraordinaires de connexion entre nous, se connecter au reste du monde, voir ce qui se passe, d'entrer en contact, d'apprendre, de voir qu'on n'est pas seul. Tout ça, ça a été propulsé à l'exposant à 1 million grâce aux médias sociaux. Donc, plus juste le téléjournal de 25 minutes le samedi pour nous informer, ni quelques émissions de télé pour se voir quelque part. Je peux me retrouver à quelque part rapidement. Par contre, je pense que les gens ont oublié qu'il y avait une autre personne aussi de l'autre côté de l'écran quand ils commentent. Et pourtant, c'est supposé nous connecter et il n'y a rien qui nous déconnecte plus que finalement les médias sociaux. Parce qu'on n'a pas appris à gérer ça. Il y a un organisme qui s'appelle Le Ciel à Montréal qui font de la sensibilisation dans les écoles justement pour bien comprendre. Jamais diaboliser. Il faut vivre avec notre temps, vivre avec cette technologie-là, mais on les utilise comment? Quand tu écris tel commentaire, oublie pas qu'il y a quelqu'un qui le reçoit de l'autre côté. Puis que ça peut peut-être avoir même un impact légal. On est protégé par une charte. Donc, tout ça, on l'a pas eu, cette éducation-là collective, ni les jeunes, ni les moins jeunes. Et là, on a ça entre les mains. C'est comme une bombe à retardement. Puis on a soit le choix de la faire exploser ou de faire quelque chose avec, puis de la transformer en énergie à la limite, puis que ça propulse autre chose. Mais je pense qu'on est dans un carrefour en ce moment où on est dépassé par son utilisation et ça donne des dérapages qui se répercutent aussi dans la vie de tous les jours parce que ça reste que c'est des humains qui l'alimentent. Donc, c'est pour se rendre problématique sur une application, il faut l'être un petit peu. Tu n'es pas juste méchant sur Instagram, tu l'es potentiellement aussi dans ta vie privée. C'est juste que là, tu te sens protégé, tu te sens aussi validé aussi par d'autres parce que TikTok, oui. Quand tu es méchant, là, t'as plein de likes.
C'est vrai.
Tu te sens populaire, puis tu te sens plus seul parce qu'il y a plein de monde qui te valide dans ta méchanceté. Exact. Ça, c'est dangereux, ça.
Oui, très dangereux. Oui. Là, on a juste à penser, dernièrement, il y a eu beaucoup de suicides chez les jeunes qui ont été médiatisés. Moi, en tout cas, je suis venu le cœur gros, là, c'est épouvantable. Une petite fille de 9 ans, je pense, qui s'est enlevée la vie.
En France.
En France.
Sarah, de son prénom, qui s'est enlevée la vie. Personne, peu importe son âge, qui devrait penser à ça comme solution. Ça n'en est pas une. Ça ne devrait pas être une solution, du moins, à s'échapper de ce qu'on peut vivre de mal. Mais qu'une enfant de 9 ans, parce qu'elle vivait de l'intimidation à l'école en lien avec son apparence physique, en a eu cette fatalité-là. J'ai écrit un mot par rapport à ça. J'ai dit, il va falloir qu'on s'accroche à la vie ensemble. On peut pas laisser ça passer. Puis, je trouve ça terrible, vraiment terrible. Et après, j'avais vu quelques jours après qu'au Québec, la Fédération des comités de parents avait partagé une recherche où il démontrait que 55% des jeunes au Québec se disent victimes d'intimidation. Fait que c'est qui le prochain? C'est qui la prochaine de ce lot-là? Moi, je veux pas que ça arrive. Puis avant de se rendre à un suicide, il y a plein d'étapes extrêmement troublantes. Puis il y a plein de gens qui sont dans chacune de ces étapes-là. Moi, ça me fait peur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle, faut qu'on parle, faut qu'on parle, faut qu'on parle. Puis il faut qu'on s'écoute. Je pense qu'il faut qu'on s'écoute parce que ça me fait peur, ce genre de situation. Puis tu sais, la France est à côté. C'est nous quand on entend des histoires comme ça. C'est arrivé, je pense, la semaine passée, il y a quelques semaines, autour du 20 octobre au Québec, une jeune s'est fait tabasser et les jeunes se filmaient et ont mis ça sur Snapchat et la mère a quasiment appris ça en live.
C'est très violent à part ça,
Au Saguenay, dans un parc. Donc, des gens viennent à la violence, filmer, en faire quelque chose, puis se faire. Je trouve ça troublant.
ouais. C'est troublant. T'en parles, puis ça m'émeut, mais pas dans le bon sens. Est-ce qu'il y a...
Vas-y.
Oui, j'allais dire. Est-ce qu'il y a un profil type d'intimidateur? Est-ce que parce que tu es un parent intimidateur, ton enfant risque de l'être? Tantôt, tu en as parlé un petit peu là, quand on parlait du gala et tout ça, mais est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'on peut les voir venir ou pas vraiment?
Je vais vous faire un dessin, puis on va le trouver, cette personne. C'est pas aussi simple que ça.
OK.
Il n'y a pas de profil si type que ça de se dire parce que j'en ai vécu, je vais en faire vivre, parce que je suis ça, je vais le faire. C'est pas, ça serait encore tellement trop facile de tomber dans c'est un groupe versus un autre. C'est plus nuancé que ça.
OK.
Je pense on peut tous être à risque de l'être. Il y a des gens qui en prennent conscience, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui peut-être par l'environnement dans lequel ils travaillent. En même temps, il y a des gens élevés par des gens extraordinaires qui deviennent des gens extrêmement problématiques. Et inversement, tu as des gens élevés par des gens extrêmement problématiques qui deviennent des perles et des étoiles dans notre société. Donc, cette cohérence-là, c'est pas dans notre ADN. Je veux dire, il y a personne qui naît raciste, il y a personne qui naît homophobe, il y a personne qui naît sexiste. On le devient puis on l'apprend quelque part. Mais c'est pas forcément un événement pointu dans notre vie qui fait que ça arrive, ça peut être un cumul de plein de choses. Et c'est pour ça qu'on a tous une responsabilité sociale dans cette prise de solution-là. Parce que c'est pas juste à l'école. L'école a beau faire de leur mieux, mais si les jeunes retournent à la maison puis qu'ils sont dans un environnement qui encourage des comportements problématiques, ça c'est limite ce qu'ils ont appris à l'école. Et inversement, si dans une maison hyper bienveillante où le respect fait partie du menu à tous les soirs, mais qu'à l'école, on n'en parle jamais du respect, puis qu'on ne parle jamais d'empathie, ben c'est assez tough aussi de poursuivre cette conversation-là, puis on est teinté par les gens. Donc, il n'y a pas ce profil type-là. Ça serait trop facile de pointer une certaine personne, de dire c'est eux, pas eux, mais il faut faire attention parce qu'on est tous à risque de l'être, puis il faut qu'on en prenne conscience.
Raphaël, on parlait des pronoms tantôt, puis là, tu viens de dire tous, puis je l'ai bien entendu, ton tous. Dernièrement, il y a quelqu'un de bien pensant dans la politique, qui a décidé que ces pronoms-là, il n'y avait plus lieu d'être. Qu'est-ce que tu en penses?
Fallait interdire l'écriture inclusive puis il faut quand même paramétrer ce qui a été partagé. Là, c'est dans les communications du gouvernement, donc c'est pas l'imposer au reste de la société, mais ça envoie quand même un message clair quand le gouvernement du Québec prend position de façon aussi drastique sur, pour moi, ce qui est pas un enjeu de société en ce moment, l'écriture inclusive. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'autres dossiers à régler. Je pense que ça détourne l'attention sur d'autres choses. Mais ça démontre à quel point ils sont peut-être eux-mêmes dépassés par ce que c'est. Puis je vous le dis,
Ouais.
c'est pas simple, l'écriture inclusive versus l'écriture épicène. On l'a vu, le pronom «iel», c'est une combinaison de «il» et de «elle». Donc, certaines personnes non binaires vont l'utiliser. On l'utilise dans certains panneaux publicitaires pour rendre une écriture dite plus fluide au regard ou même à la lecture. Mais encore là, c'est comme tout. Moi, je crois beaucoup à tout. Quand il y a un changement, il y a des étapes importantes à respecter, la concertation, prendre son temps, écouter, peut-être
Ah
s'adapter, répéter. C'est peut-être des étapes qui n'ont pas été faites dans le processus auprès soit du gouvernement ou de la société. C'est une autre affaire. Comme on s'est mis à parler vite d'écriture inclusive, il y a des
Ouais.
un peu partout. Puis je suis pas sûr que tout le monde comprend pourquoi il y a un point entre deux affaires, puis pourquoi. Je pense que ça va prendre son temps, mais le français, c'est une langue extraordinaire parce que c'est une langue qui a su évoluer avec son temps. J'espère qu'elle va continuer de l'être. Il y a des mots qui ont apparu dans notre langue à travers le temps, d'autres ont disparu. Ça s'adapte avec qui on est, mais il y a des gens humains, qui se sentent inclus quand on utilise cette écriture-là. Puis il faut qu'on le considère, puis il faut faire attention quand on interdit quelque chose comme ça, parce que ça envoie un message à bien du monde qui n'ont pas leur place.
On parle beaucoup de tout le côté humain. J'ai vu que tu as gagné des prix, dont entre autres un prix Arista de la Jeune Chambre de commerce dans ma jeunesse, il y a quelques années. J'ai été président du concours, fait que je comprends un petit peu tout ce qu'il y a autour de ça. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu l'as parce que tu le mérites. Comment tu fais pour amener tout ce côté-là humain dans ta gestion quotidienne? Puis d'avoir une gestion aussi qui est efficace.
Là, je ne veux pas faire taper ses doigts. J'étais finaliste au prix Arista comme jeune cadre du Québec. Donc, j'étais dans le top 3. Mais j'ai
OK.
gagné leader de l'année du concours Estime. Donc, c'était rendu là, même affaire. Mais je ne veux pas voler le prix à une autre personne parce qu'elle le mérite amplement.
OK, t'es finaliste. J'ai vu aussi le prix Estime que sur lequel, oui, je
Donc,
connais.
c'est des super belles reconnaissances. Et ça me touche parce que un, ça rappelle à beaucoup de gens que je suis un gestionnaire de base. Moi, mon métier, c'est d'être gestionnaire, de gérer une équipe, de gérer une organisation. Je suis pas juste un gars qui donne des entrevues puis qui aime les beaux vêtements. Puis souvent, ben, mes médias sociaux peuvent faire croire ça. Donc, de recevoir ce type de reconnaissance-là me replace un peu dans l'échiquier du milieu des affaires dans lequel j'aime ici naviguer. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de diriger et d'encadrer avec autant d'humanité que j'essaie de le faire. Il y a une expression que je commence à comprendre encore plus son sens. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Mais je rajoute, mais c'est pas simple. Et c'est pas simple ensemble. Ça prend du temps, puis on avance, on recule, on se tasse, on se réajuste, on. Puis, j'étais un gars, moi, j'étais un gars d'action, puis j'étais un gars qui va vite. Et j'ai eu à m'ajuster ça comme ça parce que je prenais pour acquis. Tout le monde a compris, tout le monde est d'accord, on part. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et j'ai une image très, très claire de où est-ce que j'ai compris ça. À un moment donné, ça fait quelques temps que je suis chez Ensemble, on organise le party de Noël. Et tout le monde, on trinque ensemble. Et il y a vraiment un moment où je crois profondément que je suis arrivé au moment où tout va bien. C'est arrivé sur mon air d'aller. Je me suis dit, là, tout le monde est heureux, on prend des photos, ça rit, on chante au karaoké. Ah ouais, donc, je croyais vraiment à ce moment-là que j'avais réussi ma job. Le lendemain, je me réveille. Texto d'un qui me demande ça, l'autre qui n'est pas d'accord, l'autre qui, ça fait 3 semaines qu'il pense à quitter, l'autre qui. Et là, j'ai
Ah.
fait. Ça veut dire que ça ne sera jamais fini, ce travail-là. De s'assurer que tout le monde va bien, puis qu'on est sa bonne piste, puis qu'on est aligné avec la vision que j'ai. Et c'est
Est-ce que
à ce
ça se peut que
moment-là que
tout le monde soit bien?
Comment?
Est-ce que ça se peut que tout le monde soit bien en même temps?
Peut-être que non. Probablement que non. Et c'est là que mon travail a commencé à changer, où j'ai commencé à intégrer, à prendre mon temps, à pas avoir une recette pour toute la gang, à vraiment essayer de comprendre le sous-texte des gens quand ils t'abordent. Ou quand il t'aborde pas, à vraiment essayer de prendre mon temps, à pas penser que tout le monde pense, fonctionne de la même façon, que c'est pas parce que tu travailles de cette façon-là que tu es moins efficace que l'autre. Toute cette individualité-là, pour moi, est importante, mais elle devient compliquée et complexe, mais très payante. Parce que c'est justement de s'ajuster, c'est de prendre son temps, c'est tout le temps se revirer sur un 10 cents, de mettre en place des paramètres pour certaines personnes, mais c'est ça aussi l'équité. C'est de mettre en place des paramètres pour peut-être sembler avantager quelqu'un, mais au contraire, tu es juste en train de l'aider à être sa même ligne de départ que tout le monde pour bien faire son travail. Puis ça, ben, c'est une job à temps plein. Mais j'ai tellement autre chose aussi à faire. Et je pense que c'est peut-être pour ça que. Puis je le dis avec beaucoup d'humilité, qu'on me reconnaît avec mon leadership, que je crois bienveillant. Puis bienveillant, pour moi, c'est pas une destination, c'est un long voyage. Puis je pense que c'est à l'image de mon exemple du party Noël, où je pensais que c'était une destination de hey, « Hé, là, je suis le patron bienveillant, tout le monde est content, ça va être beau de même pendant 5 ans. » Le lendemain matin, j'avais la preuve que c'est toujours à ne jamais prendre pour acquis. Puis je suis entouré de mentors, de coachs, de gens qui font le même métier que moi. Puis j'essaie vraiment de l'aider à l'image de comment moi je voudrais être l'aider. Puis je rajoute tout le temps, il y a un motto que j'aime beaucoup, tout faire avec sérieux sans jamais se prendre trop au sérieux. Pour moi, c'est important aussi ça dans le quotidien, d'avoir du plaisir à faire ce
Oui.
qu'on fait. C'est la chose la plus importante.
Est-ce que tu penses qu'il y a une complémentarité qui s'installe avec des gens qui viennent de différents niveaux, avec différents niveaux de connaissances, différentes, communautés, tout ça?
Tellement. C'est le pouvoir de la diversité. C'est le pouvoir de la diversité en société, c'est le pouvoir de la diversité dans une salle de conférence, c'est le pouvoir de la diversité dans des prises de décision. Moi, j'aime être challengé. Puis il faut parfois mettre beaucoup d'eau dans son vin. Mais c'est là que ça devient. Il y a quelque chose qui émerge de payant, que j'ai pas vu, que j'ai pas considéré. Ça change tout, ces perspectives-là. Après, t'en prends, t'en laisses d'un peu tout ça. Mais moi, ça, c'est quelque chose que j'aime. Et c'est un peu à l'image de l'organisme pour lequel je travaille. On est une équipe très diverse. On représente pas toute la diversité, mais j'essaie d'avoir le plus de talents différents, de points de vue différents, de backgrounds différents, de voir le potentiel chez les gens aussi. Moi, il y a des gens qui ont vu le potentiel chez moi. Je vous l'ai dit, je suis un gars qui a un secondaire 5. On m'a fait confiance. Aujourd'hui, ben, je suis où je suis parce qu'il y a des gens qui ont fait confiance à ce potentiel-là. J'essaie aussi d'avoir cette marge-là de voir le potentiel chez les gens. Mais je trouve ça beau et payant. Mais c'est pas toujours simple d'avoir plein de gens qui pensent pas pareil autour d'une table.
Non, ça doit pas.
Ça doit, c'est clair.
Moi, Raphaël, toi, là, tes rêves, d'abord ta mission de vie, parce qu'on a parlé de ta mission professionnelle, mais ta mission de vie, à toi, tu dirais que c'est quoi?
Ma mission de vie à moi, ce serait quoi? D'être le plus bien possible avec moi-même,
Wow.
avec mes choix, avec où est-ce que je suis, avec les gens qui m'entourent. J'essaie de ne pas me définir que par ma carrière, ce qui a longtemps été mon ambition. Là, je suis à un carrefour où elle prend beaucoup de place et je ne veux pas qu'être ma carrière. Je veux pouvoir que ma carrière m'emmène à faire plein d'autres choses. Mais je pense que ça va toujours être les deux ingrédients qui me manquaient pendant longtemps, l'humain puis communiquer. Je pense que c'est ce que j'ai envie de faire le plus longtemps possible, autant au niveau personnel que professionnel, c'est d'être en connexion avec des humains puis de communiquer, d'apprendre, d'écouter. Si c'est offrir des conférences un jour devant 1 million de personnes en TED Talk, ce sera ça. Mais je veux aussi pouvoir avoir des conversations autour d'un verre de vin avec des gens qui m'inspirent, que j'aime, puis que ça soit vrai, puis que j'apprenne. Donc, c'est un mélange de tout ça. La politique me tente un jour. Où, quand, comment, je sais pas encore, mais j'ai vu la série La candidate sur ici tout.tv il y a de ça quelques temps
Oui.
et c'est la première fois qu'une série me faisait pleurer comme ça. Puis pourtant, ça n'avait rien de bien
Mais
émotif,
non,
mais
je
un appel. J'ai vu ça, je me suis dit, hey, je pleurais, j'étais chez mon père, j'écoutais ça sur l'heure du lunch un peu par hasard et j'ai eu un appel. Je veux comprendre et je veux voir un jour si je peux être pertinent avec ce levier-là dans notre société pour avancer certaines choses. Ça fait que peut-être un jour, mais en ce moment, je suis pour le meilleur des partis. Ça s'appelle Ensemble pour le respect de la diversité.
Qu'est-ce qui reste à faire sur le terrain, Raphaël, pour faire avancer les choses?
Il reste tellement à faire. Ça va toujours être à faire, j'ai l'impression. Je pense qu'il faut juste jamais arrêter d'avoir ce genre de conversation-là. Il faut jamais arrêter d'espérer. Je pense qu'il faut jamais arrêter d'apprendre, de se remettre en question, de se brasser, de se rappeler d'où est-ce qu'on vient. On a une belle devise au Québec qui s'appelle « Je me souviens », je sais pas à quel point on l'applique tout le temps. Se souvenir d'où est-ce qu'on arrive pour peut-être mieux avancer. Ça va toujours être à refaire. Puis je pense que c'est justement mon interprétation à moi qu'on s'est peut-être un peu relâché dans les dernières années. Et là, il y a des gens qui attendaient que ça se relâche pour pouvoir reprendre le dessus. Puis je pense qu'il va falloir qu'on rappelle qu'on a choisi ici et que ça devrait être comme ça partout ailleurs, des valeurs dont le respect, et le respect au sens le plus large entre nous, vivre et laisser vivre, mais dans le respect, la
Oui.
considération. Puis ça, ben, faut qu'on se rappelle. Puis, parce que ça, c'est intolérable, la haine.
Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des changements autour de nous?
On a tous un rôle à jouer. Tout le monde. Puis souvent, on a tous le réflexe de vouloir changer le monde. Puis à cause de ça, ben, on passe pas du tout à l'action parce que c'est impossible, ça fait peur.
Faut changer son monde à soi avant, hein?
Moi, soi. Et puis, je me rappelle, je rêvais de, quand j'étais ado, d'aller à Salut Bonjour un jour. J'ai eu la chance d'aller à quelques reprises. Et je ne savais pas à quel point ça allait être un moment fort dans ma vie charnière. J'ai dit que tout se passait autour de Nilo. En plus, j'étais autour de Nilo, d'un studio de Salut Bonjour. Puis, depuis ce moment-là, je me le répète, puis je le répète souvent, autour de Nilo, on peut tellement changer d'affaire. Nilo de cuisine, là, notre table, peu importe ce qu'on a, là, l'équivalent de Nilo, une table de cuisine, une table, on a peut-être le plus d'impact dans nos maisons, nos chalets, nos apparts, nos tentes, nos
expériences. Le podcast.
Le podcast, qui est un peu comme un îlot, finalement. Je pense que c'est un endroit qui peut être transformateur. Ça va avoir encore plus d'impact que des campagnes publiques d'émissions, parce que j'ai l'impression le dimanche d'être autour de l'îlot avec 1 million de personnes. C'est quand même bien du monde autour de l'îlot, vous me direz, mais j'ai l'impression que ça me donne d'être. Tu sais, j'aime ça prendre mon petit verre le dimanche soir avec d'autres mondes que je sais qui font ça. Et justement, dans les derniers jours, j'étais à l'épicerie, l'emballeur. Il me dit, as-tu vu l'entrevue hier? Était ensemble. Et donc, ces petits lots-là, je pense qu'il faut qu'on le reproduise plus souvent entre nous. Donner rendez-vous, parler, ça, c'est pas sur les réseaux sociaux que ça se passe, c'est dans la vraie vie.
Le temps étant ce qu'il est, on a fait notre heure d'entrevue. Moi, je me sens privilégié de t'avoir eu pendant une heure, juste à nous trois. On va partager ça avec plaisir. On va essayer d'en faire un îlot.
Merci. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir créé cet espace-là. Et si ça peut juste nous avoir, nous quatre, fait du bien, c'est déjà ça de réussi. On ne se met pas de pression d'autres, mais s'il y a une autre ou deux autres personnes qui peuvent embarquer, puis jaser avec nous, puis provoquer une affaire, ma mission est réussie. J'ai communiqué, puis je suis entouré de beaux humains. Fait que moi, ma mission est faite.
Écoute, Raphaël, à chaque mois, à chaque podcast, j'offre un cadeau à l'invité. Et à toi, j'ai envie d'offrir celle-ci. Aime ton histoire, ne la juge pas. Pas plus qu'il ne faille, laisser les autres la juger.
Ah. Je ne sais pas si les gens vont l'écouter en version vidéo, mais je vais te mettre une mascara. Faut pas que ça coule. Faut pas vraiment ce que tu me dis, parce que ça arrive un moment où ça résonne beaucoup. De ne pas juger, okay. De pas juger mon histoire, puis de la laisser faire
les choses. Vivre, respirer.
Oui, pas me remettre un masque. Je veux pas reporter le masque.
Non, il ne faut pas. Faut surtout pas, Raphaël, tu es tellement lumineux.
Oui, c'est le mascara.
Ben, merci beaucoup.
Merci à vous trois, sincèrement.
Merci, Raphaël. À bientôt, bye. Alors, c'est ce qui met fin à notre podcast. Alors, je veux remercier H2H Stratégie, sans qui l'épisode ne pourrait pas être diffusé. Je vous rappelle à tous qu'on peut voir le podcast, les anciens podcasts, sur Facebook, sur YouTube, sur Balado Québec, ainsi que sur Spotify. Alors là-dessus, le mot de la fin à José.
Humanoïde, ça se termine comme ça. Mmh.